Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
3 millions d'enfants en France vivraient dans une famille pauvre, 3 millions d'enfants dont la famille ne disposerait pas plus de 930 euros par mois pour vivre. Une situation qui ne va pas en s'améliorant, comme l'a récemment montré le rapport du Secours catholique qui alerte sur une augmentation de la pauvreté en France. Sorti en plein dans l'entre-deux-tours, ce rapport s'est invité dans la campagne des primaires des Républicains. Aussi aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur ce rapport, mais aussi sur les programmes de François Fillon et d'Alain Juppé et ce qu'ils disent en matière de lutte contre la pauvreté. Ce matin, donc, une émission Secours catholique, le rapport qui fait mal, avec autour du plateau donc Lydie Carlou-Yog, qui est déléguée du Secours catholique pour l'Ariège et la Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Laurent Seux, qui est directeur national de l'Action France du Secours catholique et qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Voilà, et on ne l'a pas pour l'instant. Bonjour, vous m'entendez, Laurent Seux ?
Oui, très bien, bonjour.
Voilà, bonjour. Et le père Michel Dagra, qui est théologien et prêtre du diocèse de Toulouse, bien connu de nos auditeurs. Alors au début de ce rapport, je voulais peut-être surtout avec vous, Lydie Carlou-Yog, mais n'hésitez pas à intervenir, Laurent Seux, revenir sur les circonstances dans lesquelles sont sorties ce rapport. Ma question ira finalement à vous, Laurent Seux. Ce rapport est sorti juste dans l'entre-deux-tours, de la primaire, hein, pas de la présidentielle. Est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'est un pur hasard du calendrier ?
Le rapport sort toujours à la même période pour nous, donc une forme de hasard. En même temps, il tombe assez bien, puisque pour nous, il y a vraiment un sujet de ton, comme vous l'avez rappelé, puisque quand on parle de pauvreté, parfois on pense aux 150 000 personnes qui, en France, sont dans la rue. Donc c'est vrai, c'est une partie très visible, mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté, en France. Alors le Secours catholique ne reçoit pas ces 9 millions de personnes, on reçoit à peu près 1,5 million de personnes par an, mais 2/3 des personnes que nous rencontrons font partie des 3,5% les plus pauvres de la population, et donc c'est intéressant à cet égard-là de regarder les évolutions, et ça dit quelque chose de l'évolution globale et de la pauvreté en général et de la situation de la société en France, voilà. Et donc nous avons voulu une forme d'alerte en disant, écoutez, ça ne bouge pas, il y a toujours 9 millions, on oscille entre 8 et 9 millions, c'est un problème vraiment significatif, et on voudrait effectivement que les candidats à la primaire, mais les candidats à la présidentielle en général, se saisissent du sujet, parce que c'est un signal qui n'est pas bon pour l'ensemble de la société française.
Alors, ce qui veut dire que vous félicitez que le sujet a été... Enfin, vous avez été cité dans le second débat de la primaire des Républicains. Est-ce que c'était un motif de satisfaction, d'une certaine manière, pour le Secours catholique ?
Pour le Secours catholique, c'est toujours un motif de satisfaction quand on se préoccupe de la situation des plus pauvres, en France et dans le monde. Et parce que nous disons, ça fait partie de notre vision de société, de dire que nous croyons que le développement de nos sociétés en France et dans le monde se mesure à la place qu'elle donne en toute justice aux personnes les plus fragiles. Et donc, si on ne se préoccupe pas du sort des plus fragiles, on rate quelque chose de notre pacte social, de notre solidarité. On pourrait peut-être dire en Église aussi de notre communion, et ça ne nous va pas.
Alors, je le disais en introduction, donc je citais un chiffre, mais en effet, il y a certains chiffres clés à citer avant de rentrer dans le détail. Vous disiez 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, 3 millions d'enfants, 1,5 million de jeunes âgés entre 18 à 30 ans. C'est vrai que c'est les chiffres qui donnent le vertige. Ça veut dire quoi, sous le seuil de pauvreté ? Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que le foyer, la famille, en fait, n'a pas plus de 930 euros pour vivre ?
Alors, je continue à répondre. Le seuil de pauvreté en France, il est fixé aujourd'hui à 1000 euros. Voilà. Et donc, quand on dit qu'au Secours catholique, le revenu médian des personnes que nous rencontrons est de 530 euros, ça veut dire que les personnes rencontrées effectivement au Secours catholique sont à un niveau qui est pratiquement moitié inférieur au seuil de pauvreté. Donc, on est vraiment au Secours catholique avec les plus pauvres. Quand on parle des 9 millions, c'est 9 millions avec un revenu médian en dessous de 1 000 euros.
Michel Dagra, peut-être vous qui êtes pas le spécialiste du Secours catholique, est-ce que c'est des chiffres qu'on peut lire chaque année si on est attentif à la sortie du rapport du Secours catholique? Mais je sais pas comment vous avez réagi à la lecture de ces chiffres, ça vous a surpris, pas surpris?
Je pense, personnellement, ça ne m'a pas tellement surpris, mais il me semble que ça pose le problème, cette question du seuil de pauvreté. D'abord, de la distinction entre pauvreté et misère, il faudrait s'expliquer là-dessus. Et puis, ce seuil de pauvreté, on le présente ici de façon économique, monétaire, budgétaire, mais ça touche aussi tout un tas de composantes de la réalité humaine, personnelle et sociale. Il y a aussi des pauvretés intellectuelles, des pauvretés spirituelles, enfin des seuils de pauvreté dans ce domaine-là. Ces seuils ne sont pas chiffrables, mais ils existent, hélas.
Alors, Laurenceux ou Lydie Carlouillog, au choix, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce rapport, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions il est fait? Donc, c'est-à-dire que vous recevez un certain nombre de ménages chaque année au Secours catholique, un certain nombre de personnes. Quel est un peu le panel global? Et semble-t-il, à chaque fois que vous accueillez quelqu'un, vous lui demandez aussi un certain nombre d'informations, et c'est à la fin ce qui fait que vous avez ce rapport annuel. Est-ce que l'un ou l'autre, Laurenceux ou Lydie Carlouillog, vous voulez bien nous expliquer la précision des données que vous avancez? Laurenceux, allez-y, lancez-vous.
Oui, quand je suis par téléphone, c'est pas mal.
Exactement.
Non, s'il y a tel ou tel, sinon on peut pas se regarder pour dire.
Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole, ce sera plus bien.
Donc en fait, effectivement, nous avons depuis 35 ans au Secours catholique mis en place un système statistique et qui fait que aujourd'hui, nous avons à peu près 100 000 fiches statistiques qui sont remplies dans nos accueils du Secours catholique à l'occasion de rencontres effectivement de ménages. Et donc c'est sur la base de ces 100 000 fiches, donc qui représentent 100 000 situations, et donc par extrapolation, puisqu'une situation c'est pas juste une personne, c'est le ménage qui recouvre dans son ensemble, on travaille sur une évolution. Ce qui est très intéressant, c'est que comme on a cette base depuis très longtemps maintenant, plusieurs dizaines d'années, que nous travaillons sur l'année juste antérieure, nous avons un regard sur les évolutions qui est souvent en avance de ce que va pouvoir faire l'INSEE, par exemple, parce qu'ils ont des démarches qui sont plus longues, qui sont plus lourdes, et c'est la raison pour laquelle les statistiques et les analyses que nous en faisons année après année sont regardées très, très finement.
Voilà, donc précision faite est nécessaire. Parlez bien devant votre combiné pour qu'on vous entende bien. Donc parmi les choses qui ressortent de ce rapport, j'en ai noté quatre. Cette fois, je vous donne la parole, Lydie Carlouillog. La première chose, c'est que ce rapport dit qu'il y a toujours plus de femmes et d'étrangers parmi les personnes accueillies au Secours catholique et donc en situation de pauvreté. Est-ce que vous voulez nous expliciter ou illustrer ce premier grand item, Lydie Carlouillog?
L'expliciter, je ne sais pas si j'ai toutes les raisons qui amènent ce public à être plus en précarité. En tous les cas, pour les femmes, c'est souvent aussi des femmes qui sont chefs de famille dans les familles monoparentales. C'est vrai que c'est un public qui est surreprésenté dans le public que nous accueillons. Et ça s'explique par différentes raisons. Hein. Être seule à élever des enfants et subvenir à leurs besoins, c'est parfois très compliqué. Et c'est ça qui fait qu'elles se retrouvent à demander de l'aide, notamment parce qu'elles ont des difficultés à accéder à l'emploi, par exemple, si elles ont des problématiques de garde d'enfants. Les étrangers, c'est vrai que c'est une forte tendance qu'a illustré le rapport hein, de cette année, hein, puisque on est passé à 32% de part d'étrangers, tout statut. Compris. Hein,
c'est-à-dire on est passé à 32%, on était à combien avant du coup?
Alors, sur la dizaine d'années, on est passé de 20 à 36, je pense même.
D'accord, avec une augmentation particulière à la faveur de la crise migratoire actuelle, on imagine?
La crise migratoire a accentué ce phénomène en effet. Ce que ça me démontre surtout, c'est que cette population-là est beaucoup plus précaire que le reste de la population française. Donc ça tord peut-être un peu le cou aux idées reçues que les étrangers viennent piquer les aides sociales, non, parce que les dispositifs sont tels que le plus souvent ils ne peuvent même pas y accéder. Donc parmi les personnes qu'on accueille, on a 19% de notre public qui est sans ressources, et dans ce public-là, ce sont essentiellement donc des migrants qui n'ont du coup aucune ressource et qui viennent nous voir.
Alors l'autre grand enseignement de ce rapport, c'est que j'ai noté, c'est donc il y aurait de plus en plus de personnes diplômées aussi. Alors ça, c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu surprenant. Même chose, Lydie Carlouyog, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Plus diplômés, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ce sont principalement des personnes qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire, donc lycée, formation professionnelle. On a une petite part de personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur.
Ouais, 16%.
Ce que ça illustre, c'est que les diplômes protègent de moins en moins de la pauvreté. Donc il y a toujours de plus en plus d'accidents de vie, et du coup ces personnes-là se retrouvent dans le public que nous rencontrons. Il y a également aussi, parmi les migrants qui viennent nous voir, une forte population, une forte proportion qui est diplômée et parfois même de l'enseignement supérieur, hein, dans son pays d'origine, et qui ne retrouve pas des postes à hauteur de ces diplômes, parce que la reconnaissance des diplômes ne se fait pas, parce qu'il y a aussi la difficulté de l'accès au travail quand on est migrant. Donc c'est pour ça aussi que cette population est surreprésentée dans nos publics.
L'autre enseignement aussi, c'est que une très grande partie, vous me direz, là c'est pas une surprise, des gens qui viennent sont au chômage. C'est plus de 60%, voire près de 70%. Vous commenterez les deux en même temps. Et une partie d'entre eux, en fait, qui sont éligibles au RSA, n'ont pas le RSA. Alors donc vous disiez, en fait, c'est globalement des personnes qui sont vraiment en grande situation de pauvreté qui viennent, mais en plus c'est des gens qui se donnent pas les moyens, qui ont pas accès, qui ont pas les infos. Quelle explication vous donnez à ça?
Alors ça, c'est vrai que c'est une des principales réalités, hein, du public qu'on a, c'est que il n'a pas accès à ses droits, il n'y a pas recours. Vous citiez le RSA, bon, avec la prime d'activité, la donne a un peu changé, mais on n'a pas une année de recul, hein, pour l'évaluer. Mais c'est vrai que sur la partie RSA socle ou RSA activité telles qu'elles existaient jusqu'en 2015, on constatait que la plupart des personnes qui venaient nous voir ne comprenaient pas, en fait, le dispositif, et donc du coup ne faisaient pas forcément les démarches pour y accéder, ou ils pensaient ne pas y avoir droit. Donc une véritable mauvaise information, voire même désinformation, et des difficultés administratives à remplir ce type de formulaire.
Laurence, est-ce que vous avez quelques commentaires sur les points qu'on vient de soulever? Donc pour toujours plus de femmes et d'étrangers, des personnes de plus en plus diplômées, des personnes qui sont au chômage et qui parfois n'ont pas recours, ne serait-ce qu'aux minima sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres points clés comme ça que vous voulez souligner?
Peut-être une précision sur les étrangers, c'est qu'entre, donc les chiffres précis, c'est entre 2000 et 2015, effectivement, on est passé au Secours catholique, là, de 20 à 36% dans la population coursois, alors que dans le recensement de la population, la part des étrangers passait de 5,6 à 6,4. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation, mais qui est quand même relativement mineure par rapport à l'explosion de la pauvreté chez ces personnes. Donc c'est juste pour donner une précision, mais pour aller dans le sens de ce que disait Lydie. L'autre affaire, c'est concernant le non-recours. Ça, c'est extrêmement important, parce que on entend beaucoup trop cette antienne, hein, qui est de dire oui, mais les personnes viennent pour les aides, et puis on est dans un pays aujourd'hui où règne l'assistance, etc. Et nous, on rencontre les personnes les plus pauvres. Parmi les plus pauvres, ce qu'elles nous disent, c'est que ce dont elles ont le plus besoin, c'est d'un besoin d'écoute, à près de 70%. Et par ailleurs, pour ce qui concerne leurs aides, effectivement, on constate, selon les modes, etc., est-ce qu'on regarde précisément que c'est entre 30 et 50% des personnes qui réclament pas d'hôtels et d'endroits. Donc ça vient quand même tordre le cou assez fort à un certain nombre d'idées aussi.
Père Michel Dagray, puis après on fait une pause.
Oui, je saute sur l'occasion en entendant le mot écoute. Cela signifie que les seuils de pauvreté ne sont pas simplement économiques. Il y a eu la question de l'information. Les gens arrivent sans savoir comment se débrouiller, ce à quoi ils ont droit, les secours auxquels ils peuvent accéder. Donc il y a manque de développement à ce niveau. Il y a un maintien dans l'ignorance ou plutôt une difficulté à les sortir de l'ignorance, un devoir de les sortir de l'ignorance plutôt, et l'écoute aussi, ça fait partie des réalités qui plongent lorsqu'elles sont absentes dans une pauvreté qui est au-delà de tous les seuils.
Voilà, l'écoute, c'est ce que viennent demander les personnes qui viennent au Secours catholique, et puis c'est ce que demande le Secours catholique à l'occasion de cette année présidentielle et à l'occasion de cette primaire. On va faire une première pause et puis après on va parcourir le programme des deux finalistes de la primaire des Républicains, donc François Fillon et Alain Juppé, et voir sur les questions de pauvreté ce que disent leurs programmes.
To sing your praises, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to God, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high.
Lord, I love to sing your praises.
Lord, I love to sing your praises.
I'm so glad you're in my life.
I'm so glad you're in my life.
So glad you came to save. What you did, Lord. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
Come on, you came from heaven to earth.
You came from heaven
to show the way,
to show.
Let's lift up the name of Jesus right now. Let's just begin to praise Him with our heart, with our soul, with our mind, with our strength. Lift your voice to heaven. Let your praises rise up, giving honor and glory unto God. We praise you, Lord. We lift your name on high, for you are the King of Kings.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission sur le Secours catholique et plus particulièrement son rapport, un rapport qui fait mal, puisque c'est le titre de cette émission. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec Lydie Carlou-Yogue, qui est déléguée pour le Secours catholique pour l'Ariège et la Haute-Garonne. Laurent Seux, qui est directeur national de l'Action France du Secours catholique, qui est avec nous par téléphone. Et le père Michel Dagra, qui est donc théologien et prêtre du diocèse de Toulouse. Alors, je le disais, maintenant, je vous propose un exercice peut-être un peu périlleux, mais de parcourir le programme des deux candidats, des deux finalistes de la primaire des Républicains, qui s'affrontent en ce moment, mais dont l'issue, en tout cas, de cette primaire sera connue dimanche. Avant toute chose, peut-être Laurent Seux, j'ai une première question, avant de donner la parole à Michel Dagra. On a pu avoir l'impression que les questions de pauvreté étaient absentes de ce débat des primaires. entre autres, je lisais en préparant cette émission, le politologue Bruno Cotres, qui travaille pour l'émission Sénat 360, disait, en fait, le mot inégalité n'a pas été prononcé une seule fois par les politiques lors des débats de la primaire de la droite et du centre. Est-ce que ça a été votre sentiment? Est-ce que vous avez regardé les débats? Et est-ce que vous avez l'impression que ces questions de pauvreté étaient trop discrètes?
Mais de manière générale, on parle quand même beaucoup, très peu de la pauvreté, de la solidarité en France aujourd'hui. C'est quand même des mots qui sont devenus relativement absents du débat politique. Si on se souvient de campagnes précédentes, il y a pu avoir une campagne Chirac en 95 qui était sur la fracture sociale. On a pu avoir Jospin qui... un peu sous une forme de slogan, on disait zéro SDF, etc. Donc il y avait vraiment ces questions de solidarité comme enjeu pour l'ensemble de la société qui étaient mises sur la table. Aujourd'hui, c'est effectivement totalement absent. Alors ça l'était des débats pour les primaires de la droite et du centre, mais ça l'est de manière générale. Et c'est ça qui nous inquiète. Un peu, c'est que quand on est dans une situation pareille, comme je l'ai rappelé, avec 9 millions de pauvres en France, et qu'on n'en parle pas, ça pose question quand même. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a peur de regarder ces questions-là? Et au Secours catholique, on dit il faut plutôt se poser ces questions-là, les affronter lucidement et tenter de mobiliser l'ensemble des énergies pour lutter contre la pauvreté et retrouver un pacte social où... on vive bien les uns avec les autres.
Alors, on va essayer de creuser ça. Alors, je vous propose de commencer par Alain Juppé, puisque j'allais dire honneur au père, non, surtout, enfin, telle n'était pas mon intention, mais en tout cas, c'est le celui qui a le plus petit score. Alain Juppé, alors, Michel Dagra, vous avez parcouru le programme des uns et des autres. Sur ces questions de pauvreté, qu'est-ce que vous avez noté, en tout cas sur ce volet-là, dans le programme d'Alain Juppé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru claires, des propositions importantes?
Moi, je ne voudrais pas bouter en touche, mais quand même, je ne suis pas suffisamment compétent pour répondre clairement à cette question. Je vois que dans son programme, il y a la perspective de plafonner les aides sociales, de retrait du PSA si
RSA, oui.
Du RSA si on refuse une proposition d'emploi. Bon, très bien, il faut voir ce qu'il y a derrière ces propositions, mais du point de vue de la doctrine sociale de l'Église à laquelle je suis adossé dans ma position ici de théologien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit immédiatement. Bien sûr qu'il faut traiter ces problèmes, mais il y a un certain sens de l'homme qui est à rappeler. Nous sommes devant des gestionnaires de la pauvreté, de ces situations-là. Bon, ils trouvent les moyens de gestion qu'ils peuvent. L'autre candidat, lui, parle d'un plan d'action pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, c'est beaucoup plus clair. Mais il faut quand même sortir le nez du guidon et se demander mais pourquoi, après tout. Un plan d'action pluridictionnel ou une plateforme des aides sociales. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le sens de l'homme qui est derrière? Et je pense que nous avons besoin de ce rappel. Au titre de quoi nous secourons l'étranger? Nous essayons de prendre des... Où est la boussole qui nous guide? On a besoin de cela.
Alors c'est pas parce qu'on annonce des mesures qu'on n'a pas de boussole en même temps. C'est...
Mais oui, mais alors on aimerait bien voir la boussole. Hein. Voilà.
D'accord, donc
bravo pour les mesures, il les faut, oui, sinon on reste des théoriciens quelconques, mais on ne peut pas se contenter de rester le nez dans le guidon, il faut ouvrir des perspectives et savoir pourquoi, en deux mots et en un seul mot, on prend ces mesures.
Alors peut-être, Laurence, pour rebondir, le plafonnement des aides sociales, en tout cas c'est ressorti lors des premiers débats, c'est quelque chose qui est présent dans le programme des deux candidats. Alors il y en a un, c'est le plafonnement des aides sociales, l'autre aussi, mais aussi la création d'une allocation unique regroupant plusieurs prestations existantes. Sur ce premier point, je ne sais pas, vous qui êtes peut-être plus en prise avec ces réalités, qu'est-ce que vous diriez, comment le Secours catholique réagirait ou se positionnerait?
C'est vrai que là, sur le premier point, on retrouve dans ces programmes, dit avec quelques nuances, mais quand même cette idée qu'il faudrait veiller à ce que les revenus du travail ne soient pas inférieurs aux revenus des aides sociales, avec un point d'attention. est incroyable, c'est que c'est énoncé sur une hypothèse qui est fausse. C'est-à-dire que dans 95% des cas, les revenus des aides sociales ne peuvent pas approcher les revenus du travail.
Vous voulez dire que c'est toujours inférieur au SMIC d'une certaine manière ?
Oui, c'est inférieur. Le montant du, par exemple, le montant du RSA ne permet pas de accumuler avec d'autres aides, d'être supérieur au revenu du SMIC avec les autres aides qui peuvent intervenir aussi.
Même avec les allocations familiales, puisque c'est ce qu'on pense une partie de l'opinion publique.
Non, c'est il y a 76% des Français qui pensent ça. Voilà. Or, c'est faux, et ça amène aujourd'hui un certain nombre d'associations à prendre la parole pour dénoncer ces préjugés. Vous savez, il y a TD Quart-Monde, qui a sorti un petit bouquin là, sur les idées fausses sur la pauvreté. Ce que je vous dis, là, ça fait partie de ça, de ces idées fausses qui gangrènent même la réflexion, les propositions et le vivre ensemble. Au Secours catholique, on va, dans les mois à venir, se déplacer dans une vingtaine de départements en France pour aussi aller débattre avec tous ceux qui le souhaitent. Et les délégations sont en train de réfléchir, un certain nombre d'entre elles, à se mobiliser, parce que ces idées fausses-là vraiment nous empêchent de vivre, ou même de réfléchir ensemble tout simplement. Donc ça, je voulais le rétablir, parce que je le dis quand même un peu haut et fort, parce que là, je pense qu'il y a quand même on a un problème de fond quand on avance des données de ce type-là. Après, sur d'autres... les autres questions qui ont été soulevées, il y a notamment effectivement cette question de dire le système aujourd'hui des aides, il est trop compliqué en France, etc. Et ça, en revanche, c'est tout à fait réel. Les minima sociaux, il y en a près d'une dizaine. Donc pour s'y retrouver, c'est un casse-tête et c'est une perte de temps, même pour les travailleurs sociaux. Et donc, à viser une simplification, c'est extrêmement important. Il y a un rapport qui a été remis, un rapport CIRIC cette année sur le sujet. Il y a des scénarios qui sont à l'étude. Et effectivement, le Secours catholique est favorable à ce qu'on puisse réduire, simplifier l'ensemble de ces minima, aller aussi vers de l'automaticité pour que les personnes n'aient pas... à chaque fois demander, représenter des pièces, etc. Donc là, il y a tout un travail à faire. Après, le point de vigilance sera de dire, veillons à ce que cette simplification ne conduise pas à une diminution des aides. Ça, c'est un point extrêmement important, puisque nous, ce qu'on constate, vous voyez là, quand j'ai rappelé ce chiffre de 530 euros, c'est qu'avec les aides, un certain nombre de personnes sont à peine à la moitié du seuil de pauvreté. Donc si ça devait conduire à diminuer encore les aides, ça serait dramatique pour un certain nombre de personnes que nous rencontrons.
Lydie Carlouille, vous aviez un commentaire sur
ce sujet ? Oui, non, je faisais écho un peu à ce qu'avait dit le père Dagrasse en disant « mais qu'est-ce qu'on met derrière les mesures ?» J'ai cru comprendre que le débat de ce soir... devait inviter les candidats primaires des Républicains du Centre à faire état de leur vision pour la société. Donc je pense que là, ça sera intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire et comment est-ce qu'ils voient la société française pour demain et vers quoi ils veulent aller. Et je pense que c'est important, du coup, que les personnes qui vont voter à cette primaire se posent cette question de, au-delà de mesures choisies, un peu ciblées, qui peuvent être aussi avisées parfois électoralistes, si moi je vais voter, pour quelle vision de société je vais voter. Je pense que c'est ça qui sera le plus intéressant, au-delà des petites mesures.
Père Michel Dagrasse, vous avez un autre commentaire ?
Oui, je vais tout à fait dans ce sens, et je pense aussi qu'il faut mettre sur la sellette la question de l'assistanat. Hein, les aides, très bien, en état d'urgence, il n'y a pas d'extrême urgence, il n'y a pas de problème, mais le plus vite possible, et le plus tôt possible, faire collaborer les assistés, c'est un mot épouvantable, à leur propre sortie du tunnel.
Hein, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement, Michel Dagrasse?
Je veux dire par là qu'il y a des associations, je pense au DAL ou à d'autres, ou tout simplement aux rencontres que je vis avec des gens qui sont en extrême pauvreté, et ce désir qu'ils ont de ne pas simplement tendre la main, mais de prendre avec leurs mains leur vie en main. Voilà. Et cet élément de participation fait partie de la sortie de la misère. Voilà. Le développement doit être intégral et non pas simplement économique, même s'il commence par là.
Sur la question de ce plan d'action pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qu'on trouve donc dans le programme de François Fillon, quand on regarde au chapitre justice sociale, si je ne me trompe pas, est-ce que, Laurenceux, vous avez un commentaire? Est-ce que ces plans d'action pluriannuels, est-ce que ça serait une nouveauté en France? Est-ce que ça existe déjà? Qu'est-ce que peut recouvrir cette mesure annoncée?
Là, on est en ce moment dans la mise en œuvre d'un plan de lutte contre la pauvreté qui avait été annoncé par le chef de l'État en 2012 pour l'ensemble de son quinquennat. Donc c'est pas une idée nouvelle. Nous, ce qu'on constate, c'est que ce plan-là, il n'a pas réussi à faire reculer la pauvreté, mais il a certainement permis de l'endiguer. La vraie question, c'est de se dire, voilà, qu'il y a un plan de lutte contre la pauvreté, ça peut permettre ça, mais de manière plus générale, pour aller dans le sens de ce que disait Lydie tout à l'heure, quelle est la vision globale et donc des mesures peut-être plus générales à mettre en œuvre pour qu'on n'ait pas peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la réparation dans un sens, mais quelque chose qui nous porte tous ensemble. Par exemple, au Secours catholique, on a produit une vision de société là, depuis 2011, qu'on a là revisité parce qu'on a redéfini nos axes pour les 10 ans à venir, et on dit, voilà, par exemple, effectivement, il y a une urgence à bâtir quelque chose, mais qui n'est pas simplement un plan de lutte contre la pauvreté, qui est une urgence à bâtir une fraternité universelle. Voilà. Et c'est un point essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a aussi, dans le triptyque républicain, la liberté, l'égalité, cette notion de fraternité. Qu'est-ce qu'on en fait, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, au Secours catholique, on dit, voilà, cette fraternité, c'est, par exemple, assurer à chacun le respect des droits fondamentaux attachés à la dignité de la personne humaine, mais c'est aussi lutter contre les inégalités, c'est assurer que les familles, cellules de base de la société, contribuent par leur rôle éducatif au développement de la société, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on aurait envie d'entendre, c'est-à-dire, vers quoi est-ce que ces politiques-là nous portent? Quel est l'horizon qui dessine et quelle est la place de la solidarité et celle des plus pauvres dans ce cadre-là?
Alors, Michel Desgrains, je vous vois réclamer la parole, je vais vous la donner, mais je vais quand même vous poser une question avant. Il y a un autre aspect dans ces précisions faites, en tout cas, sur les quelques mesures qu'on a pu glaner dans le programme, donc dans les programmes d'Alain Juppé et de François Fillon sur les questions de pauvreté, c'est que l'un et l'autre se réclament d'une certaine manière d'un adoubement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du pape François, et que ça a été l'objet de débats indirects ce début de semaine. Il y a quelque chose d'assez cocasse dans un pays comme la France, dans un pays aussi laïque, à voir les candidats de la primaire vous se réclamer chacun du pape François. Comment vous avez réagi à ça?
Oui, c'est très maladroit, je comprends pas, c'est pas à faire, c'était une instrumentalisation du pape pour récupérer des voix catholiques. Mais c'est de guingois, cette affaire. Il faut prendre les choses d'une façon tout autre. Si je rejoins ce que vient de dire l'autre interlocuteur, là, dont j'oublie toujours le nom, oui, eh bien, on a besoin d'une charpente et d'un plan de charpente. On n'a pas besoin d'armure où on va se protéger en mettant l'écusson pontifical sur le bouclier derrière lequel on va se protéger. Voilà, les évêques ont dit récemment que nous aurions besoin d'une charpente, mais pas d'une armure. Moi, je crois que c'est cela, le fond du problème. Quel est l'esprit qui anime toutes ces dispositions? Quel est le sens de l'homme? On évoquait à l'instant les droits de l'homme, c'est très bien. Derrière ces droits de l'homme, moi, je trouve l'Évangile, qui en est la racine la plus ultime. Eh bien, retrouvons ces valeurs profondes. Faisons une sorte de contrat social sur ces... pour éclairer simplement les dispositions qui sont à prendre et critiquer celles qui vont à contresens par rapport à ce développement intégral et solidaire. pour reprendre le titre de Populorum Progressio.
Dernière chose, Michel Dagras, si le pape François s'invite comme ça, enfin, s'il s'invitait dans la campagne, qu'est-ce qu'il dirait ? Il y a eu de nombreuses déclarations du pape François critiquant aujourd'hui un certain libéralisme. Il l'a fait encore il n'y a pas très longtemps, à l'occasion donc début novembre, à l'occasion d'une rencontre avec les mouvements populaires réunis au Vatican. Et le pape François l'a à nouveau cogné, critiquant un système économique en fait qui idolâtre l'argent.
Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Depuis Rerum Novarum, à la fin du 19e siècle, toutes les encycliques sociales, tout l'enseignement social de l'Église critique toutes ces idéologies qui écrasent l'homme. Et il n'y a pas que le capitalisme dur, pur et dur. Hein. Il y en a d'autres. Donc si le pape François venait, bon, je vais faire une boutade. C'est Cécile Duflot qui voterait pour lui, puisqu'elle l'a dit, qu'elle le prendrait comme président s'il se présentait.
Voilà, on a bien compris que c'était une boutade. On va faire une deuxième pause musicale et puis après on reviendra sur le Secours catholique et entre autres sur une rencontre qui a eu lieu à Rome entre les Caritas des différents pays et le pape François.
Présence aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Secours catholique, le rapport qui fait mal. Je vous rappelle que nous sommes avec Lydie Carlouilloc, qui est déléguée donc pour le Secours catholique pour l'Ariège et la Haute-Garonne, Laurent Seux, qui est directeur national de l'Action France du Secours catholique par téléphone, et le père Michel Dagra, théologien et prêtre du diocèse de Toulouse. Avant qu'on parle un peu plus du Secours catholique et entre autres de cette rencontre qui a eu lieu à Rome entre le pape François et les différentes caritas, je voulais quand même revenir sur le volet pauvreté des programmes d'Alain Juppé et de François Fillon, puisqu'à vous entendre l'un et l'autre, particulièrement vous Michel Dagra qui était un peu chargé de parcourir ces programmes, on a l'impression que vous n'avez pas trouvé grand chose. Alors est-ce que j'ai bien lu entre les lignes?
Écoutez, d'abord j'étais pas chargé de voir ces programmes, je l'apprends, mais c'est très bien, j'aurais dû le faire peut-être un peu plus, mais les titres dont on a parlé à l'instant me suffisent, hein. Je trouve un qui cherche à faire, qui propose un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ça me dit quelque chose, mais dans ce sens-là, je pose la question, mais quel est le soubassement anthropologique qui fonde cette disposition, ou qui fondera ces dispositions? Et là, nous avons besoin d'un contrat social qui n'est pas suffisamment explicite. Non pas pour prendre une option d'anthropologie chrétienne. Nous avons au moins la charte des droits de l'homme, et cette affaire-là mérite d'être exploitée. Et pour l'autre candidat, ça me paraît moins précis, c'est tout, mais il faudrait voir que ce qu'il y a derrière le flacon, hein, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein.
Laurent Seux, est-ce que le Secours catholique a rencontré ses candidats à la primaire, je ne sais pas, ou est-ce qu'en tout cas il est prévu de rencontrer les futurs candidats à la présidentielle?
Nous n'avons pas rencontré les candidats à la primaire, nous avons interpellés au moment de la sortie du rapport statistique, donc ils en ont parlé, voilà, et donc certains nous ont répondu par Twitter, etc., donc on en est resté là. On rencontrera bien évidemment à leur demande, et même je pense qu'on souhaitera nous aussi rencontrer des candidats à l'élection présidentielle, évidemment.
Voilà, donc ces précisions faites. Je disais donc les mouvements les caritas, puisque donc c'est comme ça que s'appellent les secours catholiques, on va dire un peu partout dans le monde, ont eu une rencontre récemment avec le pape François. C'était, si je me trompe pas, le même jour que la publication de votre rapport, le jeudi 17 novembre à Rome. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre? Est-ce que c'est une rencontre là aussi pluriannuelle, classique, ou est-ce que c'était un événement particulièrement important ou solennel? Laurent Seux.
Qui est des rencontres régulières entre le pape et les caritas, c'est tout à fait normal vu l'importance de caritas internationalis, l'ensemble des caritas dans le monde. Je crois pas, enfin je ne sais pas s'il y avait une occasion particulière à ça, ce qui est assez... J'ai découvert, moi, dans la croix, hein, comme vous, ce qui a là interrogé un peu les gens, c'est le fait de dire, effectivement, ils ont commencé à parler librement, puis après, ils se sont réunis plus en audience privée, alors avec une question, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc, j'ai lu, comme vous...
Est-ce à dire qu'il n'y avait personne du Secours catholique France qui était là-bas à Rome?
Non, parce que je pense que c'était une rencontre de... En fait, des instances internationales de Caritas. C'était pas la rencontre de l'ensemble des Caritas du monde, par exemple. Vous voyez. En fait, nous sommes au niveau des Caritas. En fait, les Caritas se sont créés avec effectivement une relation avec Rome, mais ça a vraiment été une création sui generis, c'est-à-dire qu'elles se sont créées les unes après les autres, elles se sont ensuite organisées au niveau continental, et finalement l'organisation ou le fait que les instances internationales s'étoffent s'est fait en dernier. Et donc c'est un peu ce que le pape rappelle là dans la citation qui est faite dans l'article. On dit Caritas, c'est une fédération de Caritas diocésaine liée au Saint-Siège, aux côtés du Saint-Siège, etc. Parce que c'est l'histoire et la création des Caritas qui s'est fait de cette manière-là.
Alors, il y a autre chose, moi, que j'avais relevé dans cet article de La Croix, c'est que le pape François donc aurait dit la chose suivante: « Je ne voudrais pas que Caritas soit une institution dépendante du pape, du Saint-Siège, de Coronum, de Justice et Paix, donc autant d'organismes qui sont au Vatican, mais une fédération de Caritas diocésaine, comme vous dites, voilà, un ancrage local et pas une manière d'être directement relié à Rome. » Il y a derrière ça, si j'avais bien compris, un peu un débat qu'il y avait eu avec le cardinal Sarah, qui à une époque était le président de Coronum, qui est un peu l'organe, on va dire, de la charité pour le Vatican. Ces dernières années, alors c'est pareil, c'est peut-être des vues de journalistes, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de tentative de reprise en main un peu des secours catholiques pour retravailler à une forme de catholicisation des secours catholiques, et que là, le pape François aurait tranché un peu le débat. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Est-ce que c'est pareil, ce sont des présupposés ou des interprétations journalistiques ou pas?
Ouais, je trouve que le problème est un peu mal posé quand c'est comme ça, parce qu'en fait, si on regarde l'ensemble des Caritas dans le monde, l'immense majorité, par exemple, sont présidées par des évêques. Donc le lien à l'Église est extrêmement clair. Ensuite, la vraie question, mais à laquelle on a, je trouve... notamment assez bien répondu en France, c'est de dire en quoi est-ce que la mission qui est plus sociale, fait partie d'un tout. C'est quelque chose qui a été même assez explicitement dit par Benoît XVI dans ses encycliques « Dieu est amour » ou « L'amour dans la vérité », en rappelant le triple axe de la mission de l'Église: l'annonce de la parole, la célébration des sacrements, et le service de la charité. Et c'est une des raisons qui a poussé le Secours catholique, avec d'autres, à promouvoir la démarche de diaconia, en disant il faut effectivement penser la communion et le service du frère dans un ensemble qui fasse que chaque communauté chrétienne se sente invitée à porter l'ensemble de la mission de l'Église. Et donc, cette dimension-là, mais aussi que... le service de la parole et des sacrements soient porteurs de cet ensemble. Et donc je trouve que c'est bien cette mission qu'ont les Caritas, comme l'ensemble des communautés chrétiennes, et pour nous c'est vraiment une évidence.
Père Michel Lagrave, vous avez une réaction?
Oui, pour en rester au plan social quand même, l'enseignement est clair. L'Église n'a pas de solution technique à offrir, et ne prétend aucunement s'immiscer dans les politiques des États. Hein. C'est le pape Benoît XVI qui écrit ainsi dans Caritas in Veritate, relayant d'ailleurs de multiples citations que l'on pourrait trouver dans d'autres enseignements. Si bien que le chrétien est appelé à être dans le monde comme l'âme est dans le corps. Hein. C'est un texte antique qui dit cette chose. Mais il se trouve, évidemment, c'était mentionné à l'instant, que un certain nombre de mouvements portent l'étiquette catholique. Je me demande si cela ne relève pas de la suppléance. C'est quand l'État est déficient par rapport à ce service de l'homme que l'Église monte au créneau pour l'assurer. Mais la finalité, c'est de passer la main, de se retrouver au coude à coude avec tous les hommes de bonne volonté pour travailler au développement intégral de l'homme et au développement solidaire. Voilà, et ça, je crois que le Secours catholique en France joue cette carte. Il porte toujours le titre de catholique, et tant mieux, très bien, mais la réalité, c'est cette collaboration entre tous les hommes de bonne volonté qui sont habités par un certain sens de l'homme et qui tiennent à l'exprimer, à le concrétiser dans les actes.
Lydie Kerlogueuc, peut-être pour finir, secours catholique, ça veut dire quoi du coup sur le terrain? Par exemple, prenons l'Ariège ou la Haute-Garonne, ça veut dire que c'est une association, une ONG comme les autres, mais qu'à un moment il y a une proposition, alors qui est mue par une âme peut-être particulière, comme l'a dit le père Michel Dagras, mais il y a une proposition de foi, il y a une proposition spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain?
Oui, sans doute que le Secours catholique, par rapport aux autres associations caritatives, a cette spécificité de veiller à la dimension spirituelle des personnes qu'elle rencontre, et de leur faire des propositions dans ce sens-là, leur permettre de soigner aussi leur âme, leur esprit, on va dire. Donc c'est pas forcément des chemins de foi qu'ils auront. Certains le font, mais c'est vraiment, on reste sur du spirituel. De toute façon, au Secours catholique, les bénévoles comme les personnes accueillies viennent de toute obédience, et on travaille donc voilà main dans la main pour aider son prochain. Donc, mais c'est vrai que c'est une spécificité qu'on a, de se dire que si les gens en font la demande. On proposera des temps de partage de la parole, ou on les mettra en lien s'ils ont ils veulent effectuer un chemin de foi qui a pu se mettre en place parce qu'ils ont eu une écoute justement hein, au sein du Secours catholique. On peut les mettre en lien avec l'Église, on va dire classique, avec lesquelles peut-être ils étaient le lien était un peu distendu.
Le mot de la fin, Michel Dagrin.
Oui, le premier, c'est que cette écoute, elle est réciproque. Je crois de ma foi de chrétien que le Seigneur s'exprime à travers ses pauvres. Et la page de Saint Matthieu sur le jugement dernier est très claire à ce sujet. C'est le Seigneur qu'on rencontre en servant le pauvre. Et la deuxième, c'est que il ne faut pas être dupe. Nous serons toujours une minorité à lutter pour ce développement de l'homme et cette sortie de la misère. J'en prends en témoin un passage de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui dit ceci: l'authentique humanité, qui invite à une nouvelle synthèse, semble habiter au milieu de la civilisation technologique presque de manière imperceptible, comme le brouillard qui filtre sous une porte close. Eh bien, je suis content de faire partie de ce brouillard. Il permet de mettre un peu de fraîcheur dans l'actualité.
Voilà, en tout cas, en espérant que ce brouillard éclairera, sans jeu de mots, donc, les candidats à l'élection présidentielle. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous parler de ce rapport du Secours catholique et donc de ce point sur les programmes, probablement pas exhaustif, hein, des candidats à la primaire des Républicains. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour le Radio Don.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.